Accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, l'Italie aux prises avec le changement climatique. Depuis plusieurs mois, le nord du pays en particulier est touché par des phénomènes météorologiques extrêmes, sécheresse sans précédent suivie d'intempéries violentes. À l'image de l'Émilie-Romagne, frappée par des inondations meurtrières fin mai, scénario similaire dans le Piémont, dans le nord-est, la région frontalière de la France est l'une des cinq les plus arides de la botte, a été décrétée en état d'urgence. Mais là aussi, après plus d'un an de sécheresse historique, de fortes pluies se sont abattues sur la région de Turin, où le fleuve Po prend sa source. Du manque criant d'eau à son abondance dévastatrice, ces bouleversements climatiques obligent de plus en plus à repenser la gestion des ressources, comme a pu le constater notre correspondante en Italie, Blandine Hugonnet, son reportage dans la province de Turin.
Alors là, on se trouve sur les bords du Po, en plein centre de Turin, au Murazzi, qui sont les remparts où se trouvent des cafés où viennent sortir les jeunes Turinois le soir et la journée, et qui sont aujourd'hui complètement inondés après des pluies extrêmement intenses en quelques heures seulement. Après des mois de sécheresse, les Turinois viennent se pencher par-dessus les remparts pour prendre des photos, filmer ces quais qui sont aujourd'hui interdits au public.
Je n'avais jamais vu le fleuve à ce niveau. Au contraire, l'an dernier, ici, il avait plu un ou deux jours. On a vu le niveau du Po extrêmement bas. Des sortes d'îlots sont apparus, c'était rempli de moustiques. Donc l'été, c'était invivable. On est passé de des mois sans pluie à des jours où il pleut trop.
Alors que les montagnes enregistrent 64% de neige en moins cet hiver encore, ces averses sont bienvenues. Mais loin de régler les mois les plus chauds et secs de l'histoire du Piémont pour autant, le territoire souffre encore de 20% de déficit en eau et les producteurs piémontais risquent de perdre un tiers de leurs céréales cet été.
Pour être franc, je suis inquiet. Cet hiver, nous avons déjà dû faire des choix inévitables. Pour la première fois, nous avons dû réduire notre nombre de bêtes parce que, de fait, on n'avait même pas pu faire pousser la matière première pour les nourrir.
Nous sommes au nord de Turin, dans l'exploitation de Bruno Meccacicci, éleveur de vaches et président local de la Col di Reti, première confédération d'agriculteurs. Le problème principal, c'est le gâchis. En Italie, seul un dixième des précipitations est récupéré, s'agace le représentant des agriculteurs turinois. Il nous emmène à travers champs, devant une large étendue d'eau, un réservoir artificiel comme le syndicat agricole en réclame depuis des années.
En faisant une série de structures comme celle-là dans tout le Piémont, nous pourrions mettre nos exploitations agricoles en capacité d'irriguer, donc de mener à bien les cycles de végétation de chaque culture. Mais ce genre de bassin devient aussi fondamental pour retenir l'eau et éviter les problèmes dus à son abondance, comme les trombes d'eau qui provoquent parfois des désastres dans nos villes. Nous, les agriculteurs, outre le fait d'être des producteurs alimentaires, nous sommes aussi les gardiens de la terre et nous devons être accompagnés d'une politique pour investir dans ce type de bassin de retenue d'eau.
Alors que les canalisations italiennes trop vétustes laissent échapper 40% de l'eau, pour investir dans des rénovations et des infrastructures, la région de Turin a promis 15 millions d'euros après la sécheresse historique. Reste à savoir quand les chantiers seront mis en œuvre, s'impatientent agriculteurs et défenseurs de la nature. D'autant qu'il ne s'agit plus de répondre à des phénomènes météo sporadiques, mais bien au bouleversement climatique en marche, en particulier dans cette région montagneuse, analyse l'ingénieur Segundo Barbero, directeur général de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement.
Le Piémont, comme toute la région alpine, est un point névralgique des effets les plus intenses du changement climatique, parce que la hausse des températures implique une baisse de la quantité de neige en montagne. Et ça a un impact sur nos ressources hydriques.
Et les prévisions de l'expert en sécheresse sont peu optimiste.
En tendance, le changement climatique a un effet sur les cours d'eau des Alpes. Cela mènera à 10 à 20% d'eau disponible en moins. Mais c'est surtout qu'il y aura un changement de régime hydrologique, c'est-à-dire que pendant la saison la plus pluvieuse, au printemps, à partir de laquelle toute l'économie agricole s'est développée ici, et donc quand l'eau sert le plus, nous en aurons beaucoup moins. C'est la base de notre réflexion pour les politiques futures.
Ces deux, trois dernières années, nous vivons une situation tragique de sécheresse qui nous a forcés à faire des choix un peu alternatifs face à la carence en eau. Pour le maïs, on est donc passé à un arrosage au goutte à goutte.
Dans ces champs de céréales entourés par les chaînes des Alpes italiennes, après avoir perdu la moitié de ses cultures asséchées l'été dernier, le producteur Aldo Giordana n'a eu d'autre choix que d'innover pour s'adapter au climat.
Ce système d'irrigation est né dans les zones désertiques, donc pour des conditions extrêmes. C'est bizarre à dire, mais ces dernières années, ce n'est pas si différent ici. C'est donc un réseau de tubes avec des micro-trous qui apportent une toute petite quantité d'eau en continu pour couvrir tout juste les besoins de la plante et sans gâcher une goutte d'eau.
Une adaptation gagnante face au risque de crise hydrique, l'exploitant piémontais assure avoir divisé de moitié la quantité d'eau consommée dans ses champs.
On va devoir continuer à nous adapter à ces phénomènes extrêmes, parce que ce sera probablement toujours plus difficile et que ça ne sera plus une urgence, mais ça sera la norme, et que les aides qu'on nous verse ne suffiront pas pour y survivre.
C'est pour l'instant la principale réponse des autorités nationales et européennes, débloquer des fonds, 28 millions d'euros de Rome, 50 millions de Bruxelles, et multiplier les mesures d'urgence toujours plus schizophrènes en fonction des alertes météo. Un décret sécheresse d'un côté pour le Piémont, alors que dans la région voisine, en Émilie-Romagne, c'est un décret inondation qui a dû être émis.
Changement de cap quand les déchets organiques s'avèrent extrêmement utiles. Dans l'océan Arctique, tout au nord de la Norvège, au Svalbard, une étude a montré que 15 000 rorquals, des baleines de près de 20 mètres de long, défèquent chaque jour environ 600 tonnes d'excréments. Et selon les chercheurs auteurs de cette étude, ces excréments sont cruciaux pour fertiliser et faire pousser les phytoplanctons, ces micro-organismes essentiels non seulement dans la chaîne alimentaire, mais aussi pour le climat. À Stockholm, les explications de Carlotta Morteo.
C'est un phénomène qui se passe chaque été dans cet archipel à quelques 400 km à l'est du Groenland. 15 000 rorquals migrent au pôle Nord pour s'alimenter. On parle de baleines de plus de 20 mètres de long qui relâchent chacune 40 kg d'excréments par jour. De quoi libérer quotidiennement, selon les savants calculs de l'Institut norvégien de recherche marine, 10 tonnes de phosphate et 7 tonnes d'azote. Et c'est sans compter les centaines de litres d'urine qui sont aussi du riche fumier pour l'écosystème marin. En clair, à eux seuls, les rorquals peuvent contribuer à hauteur de 4% de la production de phytoplancton dans certaines zones de Svalbard. Conclusion, plus il y a de baleines sur Terre, plus il y a de phytoplancton. Or, ces algues microscopiques, comme les arbres, font de la photosynthèse. Elles absorbent le dioxyde de carbone pour le transformer en oxygène. C'est essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique. Le revers de la médaille, c'est que les baleines émettent aussi en respirant du méthane. Et ça, c'est un puissant gaz à effet de serre. Une nouvelle étude vient donc d'être lancée. Elle va durer 4 ans avec pour objectif d'évaluer plus précisément le bilan carbone des cétacés.
Autre haut lieu de concentration de baleines en Europe sur la route migratoire de ces cétacés, les Açores. Cet archipel, situé au milieu de l'Atlantique, a longtemps été un haut lieu de la pêche à la baleine, jusqu'à son interdiction en 1984. Depuis, c'est l'observation des baleines qui est devenue l'une des premières activités de l'île. 30 000 touristes partent chaque année en mer dans l'espoir d'apercevoir quelques-uns de ces grands mammifères. Les entreprises touristiques ont donc compris tout l'intérêt de préserver cette biodiversité qui est leur richesse et travaillent main dans la main avec les scientifiques qui étudient ces cétacés à l'université de la capitale de la plus grande île des Açores, Ponta Delgada. De pêcheurs à observateurs, le destin des Azoriens semble irrémédiablement lié aux baleines. C'est le reportage sur l'île de São Miguel de Frédéric Lebel.
Sur le quai, en face de son bureau, les touristes s'agglutinent, prêts au départ vers le Grand Large pour aller à la rencontre des baleines. Carlos Picanso, le directeur commercial de la société Futurismo, ne peut que se féliciter. Le commerce est florissant, mais ce qui le réjouit surtout, c'est de voir comment l'archipel, berceau des baleiniers dès le 19e siècle, a su opérer sa transition en douceur.
Notre bateau sur l'île de Pico s'appelle Alfredo Baliero. Alfredo est le nom d'un ancien pêcheur de baleines et il a été un des premiers à travailler pour notre compagnie Futurismo. C'est comme ça que s'est fait la transition. Les pêcheurs sont devenus des employés du secteur touristique qui protège les baleines. De tueurs, ils sont passés à protecteurs. C'est un changement énorme dans notre rapport aux animaux et à la biodiversité et on est vraiment fiers d'y avoir contribué.
We are very honored to have contributed for.
So guys, good morning to you all. Small briefing.
Son agence est une entreprise labellisée Tourisme Durable. Sur les 60 employés, une dizaine, 15 en été, ont un diplôme de biologie marine. C'est le cas de Mariana Silva sur le pont du catamaran qui embarque ce matin-là une cinquantaine de touristes. Elle est à la fois guide et vigile.
On est juste au milieu de leur route migratoire. Après l'hiver et la période de reproduction, ils commencent à se diriger vers le nord où ils pourront trouver de la nourriture. Ici, c'est un peu la station essence, si vous voulez. Ils s'arrêtent ici parce que le Gulf Stream passe tout près, donc l'eau est plus chaude et il y a beaucoup de phytoplancton. Donc ils mangent un morceau ici et continuent leur voyage vers le nord.
Les Açores sont un lieu privilégié d'observation des cachalots, mais aussi des rorquals communs, des baleines bleues ou des rorquals de Rudolphi, d'adorables petits mammifères dont l'envergure peut atteindre 27 mètres de long et dont Mariana garde précieusement la trace dans un album photo qu'elle ne quitte jamais. Tous sont répertoriés, reconnus grâce à la forme de leur nageoire caudale et tous ont un petit nom.
Mr. Liable, Monsieur Fiable, c'est le seul mâle résident permanent par ici. La plupart des mâles ne viennent ici que pour la reproduction. Ils viennent et ils repartent. Mais pas Monsieur Fiable. Lui, il reste ici. Et on le repère à sa nageoire caudale. C'est notre meilleur pote. On l'a vu au moins une centaine de fois. Nos premières photos de lui datent de 2004.
Ce jour-là, ni Mr. Liable ni ses comparses ne pointent le bout de leur bosse, mais les familles de dauphins viennent nous faire la fête. Penchée à la poupe du navire, Kenza est venue avec sa fille découvrir la beauté magique de l'archipel et de sa faune marine tellement fragile.
De la joie de les voir, peut-être les connaître mieux, peut-être rencontrer des gens qui les connaissent mieux et avoir plus d'informations sur eux et peut-être les protéger plus. J'ai pu constater des sachets de plastique. Il faut qu'on respecte la nature, la mer. Qu'est-ce qu'on laisse pour les autres générations si vraiment on ne fait pas attention aujourd'hui? Et c'est urgent, je pense, de prendre conscience de cela.
Faire découvrir les dauphins et les baleines à un public non averti peut à la marge œuvrer à la préservation de l'environnement ou à la prise de conscience de sa vulnérabilité. En fait, les biologistes qui travaillent pour Futurismo poursuivent à bord un vrai travail scientifique.
Là, en ce moment, on essaie de récupérer des informations sur la manière dont les dauphins et les cachalots communiquent entre eux. Ici, on sait qu'il y a des familles de cachalots et ils communiquent avec des cliquetis. Ce sont des clics organisés en séquence, des codas sur 5 temps.
Tac, 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 tac.
Et plus les animaux sont grands, plus les silences entre les clics sont longs. On est loin de tout connaître, on est juste en train d'apprendre.
Les informations précises collectées sur le bateau, sur les espèces rencontrées, leur position, leur comportement sont partagées avec l'université de Ponta Delgada. José Azevedo est professeur de biologie marine à l'Université des Açores et travaille main dans la main avec toutes les sociétés touristiques d'observation des baleines. Le bruit incessant des bateaux est un élément perturbateur de la communication des cétacés au sein du groupe. Certains se perdent même lors de leur migration. Il va donc falloir encore restreindre les zones d'exploration touristique.
La recherche a montré à quel point certaines zones sont importantes pour la reproduction des femelles. à certaines périodes, dans certains endroits, les femelles se rassemblent pour élever leurs petits. Donc on est en train d'étudier où sont ces zones précisément et on discute de la possibilité d'interdire pendant ces périodes cruciales l'accès à ces zones aux bateaux touristiques.
Des restrictions prises en accord avec l'industrie touristique pour préserver et enrichir encore le catalogue des espaces répertoriés.
Elle est l'une des grandes gagnantes des élections municipales et régionales espagnoles qui se sont tenues le 28 mai dernier. Isabel Díaz Ayuso, 44 ans et membre du Parti populaire de droite, avec son discours conservateur musclé mais son refus d'incriminer les immigrés, elle a conquis les Espagnols. La présidente de la région de Madrid pour les 4 prochaines années, une quasi inconnue à son arrivée au pouvoir en 2019, est donc devenue aujourd'hui une figure majeure de la droite espagnole, l'incarnation d'une droite décomplexée. Son portrait est signé Margaret Tazic.
Isabel Díaz Ayuso, c'est avant tout un style, un ton provocateur et l'attaque directe de ses adversaires politiques.
Je rappelle que Pedro Sánchez était celui qui prétendait rendre à la vie politique espagnole sa dignité. Et la vérité est que jamais, en 46 ans de démocratie, un président du gouvernement n'était tombé aussi bas.
S'en prendre farouchement au gouvernement socialiste de Pedro Sánchez est devenu récurrent chez Isabel Díaz Ayuso. L'élue conservatrice du Parti populaire reproche notamment à la gauche ses alliances avec les indépendantistes basques et catalans. Le tout à travers un discours sans filtre et impulsif, comme l'explique Ana Sofía Cardenal, professeure de sciences politiques à l'Université ouverte de Catalogne.
Elle se nourrit d'une politique de confrontation et l'utilise constamment. Elle s'est spécialisée dans cette opposition au gouvernement national de Pedro Sánchez. Ses sujets de prédilection sont donc toujours ces mêmes idées selon lesquelles nous allons vers une sorte de Venezuela, que nous avons une gauche communiste, terroriste, comme s'il s'agissait d'une gauche stalinienne ou bolivarienne, et tout cela de manière très exagérée.
Des positions musclées qui lui valent d'être comparées à Donald Trump par ses adversaires. À l'instar de l'ancien président américain, Isabel Díaz Ayuso clame haut et fort sa défiance envers les médias. Elle a aussi appliqué une politique très peu restrictive à Madrid pendant la pandémie en refusant de fermer les bars et les restaurants. Mais les partisans de la chef de l'opposition sont friands de ce caractère affirmé. Pour eux, c'est le reflet d'une droite ambitieuse et décomplexée. Haïe par les uns et adorée par les autres, la figure d'Isabel Díaz Ayuso est donc pour le moins clivante, Ana Sofía Cardenal.
Je pense qu'elle est très très populaire à Madrid et je pense qu'elle est très très impopulaire dans les territoires périphériques comme la Catalogne ou le Pays Basque. Et entre les deux, je dirais qu'il y a les autres régions.
La victoire triomphale d'Isabel Díaz Ayuso à Madrid n'a rien d'étonnant dans une capitale devenue un terreau fertile de la droite espagnole. Paloma Román Marugán est politologue à l'Université Complutense de Madrid.
Madrid a connu un processus de droitisation ces dernières années. Isabel Díaz Ayuso est considérée par le bloc de droite comme une héroïne, une sauveuse, au vu de la période plus à gauche que connaît l'Espagne depuis 2018, depuis que Pedro Sánchez est devenu président du gouvernement.
Issue d'une famille de petits entrepreneurs ruinés par la crise de 2008, cette ancienne journaliste est même parvenue à conquérir progressivement l'électorat des autres formations de droite, comme Ciudadanos, parti de centre-droit, et Vox, à l'extrême droite. Mais au-delà de son succès régional, Isabel Díaz Ayuso pourrait avoir des ambitions nationales. Elle, qui est souvent présentée comme un danger pour le chef de file du Parti populaire, Paloma Román Marugán.
Ses ambitions sont désormais satisfaites au niveau régional puisqu'elle a obtenu la majorité absolue. Elle va donc gouverner pendant les 4 prochaines années dans la communauté de Madrid sans aucun obstacle ni négociation. Au niveau national, elle est logiquement en dessous du candidat du Parti populaire à la présidence du gouvernement, Alberto Núñez Feijóo. Mais elle le suit de très près. Le leadership des partis politiques se mesure habituellement à leur capacité à remporter des élections. Et Isabel Díaz Ayuso a cette capacité.
En cas d'échec d'Alberto Núñez Feijóo lors des élections législatives anticipées le 23 juillet, Isabel Díaz Ayuso a pour l'instant toutes ses chances de lui succéder à la présidence du Parti populaire.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure et partout sur notre site internet ou en podcast. Abonnez-vous et sinon, à demain, même heure.